La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, comment se fabriquent nos idées reçues à propos du cerveau ? Le cerveau a la réputation de produire des idées. Il en produit, certes, il est créateur et émetteur d'idées, mais il est lui-même l'objet d'idées reçues et la cible de diverses légendes urbaines. On ne cesse par exemple de répéter qu'il contiendrait une part dite reptilienne, que sa moitié droite serait artiste, littéraire, créatrice, et sa moitié gauche plutôt scientifique et rationnelle. Plus généralement, on parle du cerveau comme s'il était compartimenté en zones distinctes, ayant des fonctions bien précises. On raconte aussi que le plaisir serait une simple affaire de dopamine, le bonheur une bête histoire de sérotonine. La question est donc, tout cela est-il vrai ? Que disent vraiment les neurosciences aujourd'hui en plein essor à propos de tout ce qui se passe entre nos deux oreilles ? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir Albert Moukébert. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en neurosciences cognitives, psychologue clinicien, auteur d'un livre qui vient de paraître qui s'intitule « Neuromania, le vrai du faux sur votre cerveau » aux éditions Alary. Alors, j'ai une première question peut-être naïve à vous poser, Albert Moukébert. Est-ce que l'étude d'un cerveau mort nous apprend quelque chose sur le cerveau ?
Pas vraiment. On peut voir les divisions un peu anatomiques, mais sur le fonctionnement du cerveau, un cerveau mort ne nous apprend pas grand-chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis tellement de temps, qu'on était tellement en retard pour commencer à percer même les fonctionnements les plus basiques. Déjà, il faut connaître le principe de l'électricité, ou en tout cas de l'électrochimie, et il faut pouvoir observer un cerveau en vie, ce qui était quasi impossible avant certaines avancées techniques. Donc on se basait sur des accidents, des lésions, pour essayer de déduire des choses. Mais comprendre le fonctionnement d'un cerveau, contrairement à d'autres organes, si quelqu'un est mort, on ouvre son estomac, on peut trouver les restes de son dernier repas, par exemple. Avec le cerveau, un cerveau mort est un organe qui inerte.
Si je vous pose la question, Albert Moukébert, c'est parce que chacun connaît cette anecdote à la fois cocasse et consternante. Albert Einstein, quand il est mort en 1955, il avait expressément dit de son vivant qu'il ne voulait pas qu'on touche à son corps, notamment à son cerveau. Et pourtant, un pathologiste qui s'appelait Thomas Harvey a prélevé son encéphale, l'a découpé en 240 rondelles, ou lamelles plutôt, on dit
lamelles,
qui ont été examinées dans l'espoir d'y trouver une explication quasi horlogère de son génie. Et on n'a rien vu de spécial, sauf qu'il était plus léger que la moyenne.
Et on n'avait pas vraiment de chance d'y voir quelque chose de particulier, je pense. Je pense que ça en dit plus sur la conception, c'est sur notre conception de notre fonctionnement que sur le cerveau.
Et si je mets le cerveau d'un singe à côté de celui d'un humain, est-ce qu'en analysant les différences de taille, de forme, de structure, on serait capable d'expliquer d'où vient que le cerveau humain est plus performant que celui d'un singe ?
Pas vraiment non plus. C'est-à-dire, pour un singe, évidemment, il y a des différences entre les cerveaux, mais on sait aujourd'hui que le fonctionnement du cerveau ne dépend pas juste de sa taille. On va juste voir que, de manière vraiment observationnelle, qu'il y a des différences. Mais si, je sais pas, on découvre de nouvelles espèces que personne n'a jamais vues, on prélève leur cerveau et le montre aux meilleurs neuroscientifiques au monde, ils vont pas pouvoir savoir s'il est plus ou moins sophistiqué que le nôtre.
Donc il ne faut étudier que des cerveaux en activité.
C'est le défi.
Alors, votre livre s'appelle Neuromania, sans vouloir déflorer la suite de notre discussion. Votre idée, c'est qu'une certaine vulgarisation a engendré des vulgates qui ont la peau dure, et qui se passe finalement avec les neurosciences, ce qui s'est passé avec la physique quantique, qui a permis de tout dire, de tout justifier, avec une caution apparemment scientifique. Alors, il y a quand même des choses qui sont avérées, même si elles sont mal dites par la suite. Par exemple, quand une partie du cerveau est affectée, abîmée, ça a des effets sur nos capacités physiques ou intellectuelles. Donc il y a quand même une relation entre certaines parties du cerveau et certaines fonctionnalités du corps.
Absolument, il y a un certain appareillage, on va dire, dans un cerveau normal, qui est non pathologique, et certains fonctionnements. Mais par exemple, je cite dans le livre le cas d'une personne française. Je ne sais plus, il avait entre 40 et 50 ans, il a eu des douleurs à la jambe. Il voit parfois son généraliste, il vit, il a des enfants, il a sa famille et tout. Il va voir son médecin généraliste, il ne sait pas trop quoi faire, il ne sait pas pourquoi il a une douleur. Il lui dit, on va passer une IRM. Il passe une IRM, mais il y a 70-80% de son cerveau qui n'est pas là. Ça montre aussi combien le cerveau est un organe dynamique, c'est-à-dire...
Il n'est pas là, c'est-à-dire il y a un trou.
Il a une cavité dans la tête et son cerveau est poussé vraiment sur les extrémités de son crâne. J'invite les personnes qui nous écoutent de taper sur Google, genre homme sans cerveau, douleur, jambe, et vous allez voir, la photo est vraiment très très impressionnante et ça montre la malléabilité. Dans un cerveau qui se développe normalement, bien sûr, il y a un appareillage entre certains réseaux neuronaux et certaines fonctions. Mais on le voit même dans des personnes qui ont grandi normalement, comme on dit. Une personne qui a une amputation, par exemple, va avoir des douleurs fantômes, elle va avoir mal aux membres qui n'existent plus, parce que ces régions sont encore présentes, on va dire, dans le cerveau. Mais petit à petit, le cerveau se réorganise, et ces personnes, souvent, par exemple, vont avoir mal aux membres qui n'est plus là quand on leur touche le nez, ou quand on leur touche une autre zone du cerveau. Donc il y a un appareillage entre certaines zones et certaines fonctions, mais ce qu'on pense aujourd'hui, c'est qu'une même fonction va être sous-tendue souvent par plusieurs réseaux neuronaux, et un même... réseau neuronal va sous-tendre plusieurs fonctions. On appelle ça les un pour tous et le tous pour un.
Mais c'est-à-dire que le cerveau peut nous tromper sur notre propre corps, sur notre ressenti, absolument, des douleurs ou même de la présence des membres.
Absolument. Tout le monde connaît les illusions optiques, mais on a des illusions haptiques, on a des illusions olfactives et on a des illusions de douleur. Et tout ça est très médié par des sortes d'effets d'attente. Je cite aussi dans le livre une personne qui s'est prise un clou dans sa chaussure, qui hurlait de douleur. Il va à l'hôpital, on lui donne des calmants pour découper la chaussure alors que la personne est calme. On découpe la chaussure et le clou était passé entre ses orteils. Il n'avait aucune blessure et juste la vue de la chose a fait que la personne avait mal. Et inversement, on sait qu'il y a plein de gens qui ont eu des coups sans le réaliser. Je pense que c'est arrivé à tout le monde. On regarde le soir notre corps et on se dit « Ah tiens, je ne me rappelle pas d'avoir fait ce bleu », alors qu'on a un bleu énorme sur le corps et on ne l'a pas ressenti. Il n'y a pas une sorte d'appareillage direct parce qu'on ne fonctionne pas de cette manière vraiment mécaniste. Nos effets d'attente, notre connaissance jouent un rôle énorme dans nos ressentis.
Mais est-ce que c'est parce que certains traumas de la boîte crânienne nous font perdre certaines fonctions qu'on a eu cette idée d'associer à toute partie du cerveau une fonction spécifique?
Oui, il faut savoir que historiquement, et c'est pour ça que dans le livre, je voulais vraiment commencer par une partie historique, comment est-ce qu'on est arrivé là. Historiquement, le cerveau a toujours été comparé à la technologie la plus moderne de son époque. Et les débuts des neurosciences, c'est dans les années 1600, et donc avec la mécanique. Donc on s'est dit, un peu comme les rouages, on a des sortes de rouages. Et d'ailleurs, c'est même la phrénologie qui a beaucoup aussi influencé, même si la phrénologie n'a jamais été considérée comme scientifique. Il y a certaines intuitions phrénologistes qui sont passées dans la science, notamment l'hypothèse localisationniste qui dit qu'on a des sortes de modules, avec par exemple Paul Broca qui avait montré...
Pour le langage,
ou certaines expériences où on peut vivre un peu avec la boîte crânienne ouverte. Donc par exemple, je relate l'histoire d'un médecin qui prenait sa spatule et qui appuyait sur le lobe temporal ou pariétal, sur la zone qui deviendrait la zone de Broca, d'une personne qui parle, et quand il appuie avec sa spatule, la personne s'arrête de parler d'un coup. Quand il enlève, la personne reparle, en se disant, ben voilà, donc on a trouvé le langage
énorme. Un interrupteur.
Exactement, une sorte d'interrupteur. Mais un peu comme l'interrupteur, aujourd'hui on parle plutôt de dépendance, c'est-à-dire cette zone fait partie d'un réseau beaucoup plus large, dont dépendent certaines fonctions comme le langage, mais c'est pas la zone du langage. C'est pas une modularité, un peu comme d'ailleurs après la mécanique, on est arrivé aux ordinateurs. Et moi-même, quand j'étais petit, je suis né dans les années 80, on disait, un cerveau, c'est un peu comme un ordinateur. On a notre cortex visuel, c'est notre carte graphique, notre cortex auditif, c'est notre carte son, notre mémoire à long terme, c'est notre disque dur, notre mémoire à court terme, c'est la mémoire vive de l'ordinateur, les fonctions exécutives, c'est le processeur, l'alimentation, c'est la nutrition, etc., etc. Et aujourd'hui, on a vraiment abandonné ça. Aujourd'hui, on a trouvé une nouvelle analogie, c'est que le cerveau, c'est comme une intelligence artificielle. Et il y a un chercheur que j'aime bien qui dit que les neurosciences sont un cimetière d'analogies.
Mais oui, mais on continue à parler comme si ces analogies étaient vraies. Par exemple, on peut dire d'un cerveau qu'il a bugué, comme un ordinateur.
Il est surchauffé,
etc. Donc, ces idées-là s'imprègnent et on a du mal à les chasser, même quand la science vient les contester.
Oui, ben c'est ça toute la difficulté. Et pas seulement dans ce sens. Maintenant, on parle aussi d'un ordinateur avec des mots humains. Un ordinateur peut avoir un virus. Il faut lui donner un antivirus, etc.
D'autant plus qu'ils se mettent à parler.
Voilà, d'autant plus qu'ils se mettent à parler. Et donc, effectivement, parce que ces images sont tellement intuitives, parce qu'elles sont imprégnées d'objets de notre vie quotidienne, elles deviennent très difficiles à rompre. Et le problème, parce que limite des analogies qui sont pas vraies, c'est pas... On peut dire, est-ce que c'est si grave que ça? Le problème, c'est que quand on touche à notre fonctionnement, c'est des croyances qu'on appelle performatives, c'est-à-dire qu'elles ont un impact sur notre fonctionnement. Si moi, je crois que j'utilise que 10% de mon cerveau, ben ça vous ouvre l'opportunité de venir me dire, ben moi, je peux te vendre une technique pour que tu passes à 20% ou à 40% ou à 50%.
Commençons par 12.
Petit à petit.
Mais est-ce que la phrénologie, Albert Moukébert, a encore pignon sur rue? Parce que...
Non, elle a jamais vraiment eu dans la communauté scientifique une existence, mais chez le grand public, c'était vraiment un truc hyper sérieux. Arthur Conan Doyle utilise souvent
le mot
et aussi la pseudo-science avec Moriarty, avec Sherlock Holmes. La reine d'Angleterre venait venir des phrénologues pour analyser la boîte crânienne de ses enfants pour voir est-ce qu'ils vont être de bons souverains ou pas. Après, le fait que Gall n'a jamais été admis à l'Académie des sciences, donc Franz Gall, c'est la personne qui a développé l'hypothèse de la phrénologie, n'a pas changé, encore une fois, que cette intuition des phrénologues qui est encore utilisée dans plein de cas en neurosciences. Le fait que notre cerveau fonctionne par zone, le fait que notre cerveau est le siège de notre esprit, le fait que notre cerveau fonctionne similairement au cerveau des animaux et quelques autres intuitions aussi.
Et la cranioscopie, en quoi elle se distingue de la phrénologie?
C'est un peu l'ancêtre avant de...
C'est la forme du crâne qui serait indicateur de nos facultés mentales, et la bosse des maths, c'est de la craniologie.
Exactement. Les deux sont assez proches l'une de l'autre. Je pense qu'il doit y avoir moins d'un siècle entre les deux.
Mais qu'est-ce qui fait qu'un jour on a parlé de la bosse des maths? C'est-à-dire qu'on a trouvé un mathématicien génial qui avait une bosse.
Exactement.
C'est ça?
Il y a des livres, genre là aussi, si on pouvait montrer des photos, il y a des livres qui sont assez intéressants. Est-ce que ça va être une bonne femme au foyer selon la forme de son crâne? Est-ce que voilà un bon mari, voilà un mauvais mari, voilà une personne qui va être plus aimable, une personne qui va être plus antipathique, juste en regardant. Et c'était vraiment utilisé de manière pseudo-scientifique, mais vraiment sérieuse. C'est-à-dire, il y avait des outils pour venir mesurer avec une sorte de moyenne, des tests. Il y avait tout un.
Mais est-ce que c'est vrai, par exemple, à l'orientation scolaire?
Ouais.
La bosse des maths?
Bah, aujourd'hui, on fait la même chose avec le cerveau gauche, cerveau droit. Hein. On n'est pas si loin que de.
Alors, j'allais en parler justement. Parce que je savais que cette histoire de cerveau droit et de cerveau gauche était quand même un peu. C'était faux, en fait. Mmh. C'était une caricature. Mmh. Mais en vous lisant, j'ai découvert que. On n'a pas deux cerveaux, mais trois.
Ouais.
Donc est-ce que à trois, c'est plus vrai qu'à deux?
Non, mais ça donne l'impression. On se dit à deux, c'est vraiment trop bête, c'est trop con.
C'est trop simple.
Qui va croire ça? Mais trois, alors là, on a un truc.
Il y a une dialectique
qui
apparaît.
Exactement, là, on a un truc.
Alors ça vient d'où cette histoire des deux cerveaux?
Alors l'histoire des deux cerveaux est intéressante parce qu'on ne sait pas trop qui l'a développée. On pense qu'elle vient de certaines études qui ont été faites par... un monsieur qui s'appelle Gazzaniga et son directeur de thèse qui ont fait des opérations qu'on appelle la callosotomie. Donc en gros, on coupe le corps calleux, c'est la structure qui lie les deux hémisphères ensemble. Et ils avaient découvert à l'époque que si on fait une callosotomie, eh ben les gens continuent à fonctionner normalement, mais n'ont plus de crise d'épilepsie. La callosotomie, j'aurais dû le dire, c'était utilisé pour soigner l'épilepsie. Et Gazzaniga a montré que quand on sépare ces deux hémisphères, donc c'est même pas deux cerveaux, c'est deux hémisphères, bah effectivement il y a un hémisphère qui a plus accès au langage que l'autre, et on s'est dit bah peut-être qu'il y a des fonctions qui sont latéralisées. Je pense que c'est de là que vient l'impulsion initiale pour le cerveau gauche, cerveau droit. Par contre, Gazzaniga n'a jamais parlé de créatif, analytique, artistique, scientifique, ouais. etc. Alors que la théorie des trois cerveaux, donc le cerveau reptilien, mammalien, le néocortex, on sait très bien qui l'a formalisé. C'est un monsieur qui s'appelle MacLean, qui est un vrai chercheur, qui a écrit un livre dessus, qui a publié des articles scientifiques, et c'est juste qu'il s'est trompé, comme on peut se tromper.
Lui, il a pensé que le cerveau avait...
C'est développé un peu en strates.
Comme des couches géologiques?
Comme des couches géologiques,
des couches.
Mais évolutionnistes.
Il y en a trois.
Qu'il y en a trois, les reptiliens, et puis on est sorti de la mer, on est sorti dans un cadre évolutionniste basique, sauf que c'était faux, et c'est pas comme ça que ça marche. Donc il y a eu le cortex un peu reptilien, puis le mammalien, puis le néocortex, et qu'on a gagné en complexification de nos compétences. Aujourd'hui, on sait que c'est pas du tout comme ça que c'est fait.
On peut plus parler de partie reptilienne du cerveau.
Non, pas du tout. tout. C'est...
On continue à le faire.
Oui, on continue à le faire, mais pas vraiment dans la recherche. Mais par contre, dans le livre, je cite, dans beaucoup, beaucoup de manuels de psychologie, par exemple, on continue à en parler. Dans le langage courant, on continue à en parler. Parce que aussi, je pense que d'un point de vue subjectif, on ressent parfois qu'on peut être plus bestiaux ou moins. Et aussi, c'est une vision très spéciste des choses, que nous, humains, on est au-dessus de la pyramide de la phylogénie, de la biosphère, et que l'évolution, c'est une sorte de processus mélioratif permanent, et on est un peu la cerise sur le gâteau de cette opération méliorative, alors qu'on sait aujourd'hui que l'évolution n'a pas vraiment d'intentionnalité et que on retrouve des cortex chez des animaux bien qui nous prédatent d'un point de vue temporel.
Albert Moncabert, dans votre livre, vous opposez les conceptions dites localistes du cerveau aux conceptions distributistes. Mm-hmm. En fait, les conceptions localistes sont réfutées par la science elle-même, non ? Alors, ou est-ce qu'il y a encore des scientifiques qui sont localistes ?
On va dire que c'est une sorte de continuum. C'est-à-dire, il y a les localistes très très durs qui pensent vraiment qu'une zone est responsable d'une fonction, et les distributistes très durs qui pensent qu'il n'y a aucune spécificité, que tout le cerveau peut faire tout. Aujourd'hui, la science... On n'est à aucun des deux extrêmes, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, petit à petit, on a de plus en plus de données qui nous rapprochent plus des distributistes. Alors qu'il y a quelques décennies, donc pas vraiment des siècles, il y a quelques décennies, les localistes avaient vraiment le vent en poupe. Aujourd'hui, avec nos progressions, et surtout avec le manque de connaissances fertiles et fécondes, de l'hypothèse localisationniste, on est en train de se dire, en fait, ça marche pas. On n'est pas en train... La science fonctionne par prévision, par prédiction, etc. Et nos modèles ne sont pas en train de passer un peu le test du réel. Donc on est plus proche du pôle distributiste, mais il faut pas non plus tomber dans la caricature que dans le cerveau, il n'y a pas de spécificité, que tous les neurones sont en train de tout faire, tous en même temps. Non, on parle plus comme des réseaux associés. Si je dois utiliser une analogie, même si les analogies sont tout le temps approfondissantes, c'est un peu comme un piano. Et une même touche peut contribuer à plusieurs accords. Et que c'est pas... Il y a une touche et juste dans un accord, et ne fait que ça tout le temps.
Mais si on prend l'exemple des hémisphères droit et gauche du cerveau, ils collaborent. Donc en tout cas, on ne peut pas les spécifier en retenant simplement leur position à l'intérieur du crâne.
Ah oui, si on veut...
Comment est-ce qu'ils collaborent, par exemple ?
Non, mais si on veut parler en modularité, personne ne croit qu'il y a des zones genre aussi grandes que l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. On parle vraiment de très petites zones. Et ils collaborent, en fait, c'est le même organe. Ils ont pas besoin de collaborer comme s'ils sont deux entités... séparés, c'est le même organe. La structure qui les lie ensemble s'appelle le corps calleux, mais c'est pas, ils communiquent à travers le corps calleux. La majorité de nos fonctions sont bilatérales. Il y a très peu de fonctions qui sont juste dans l'hémisphère gauche ou dans l'hémisphère droit. C'est pour ça aussi que ce découpage est complètement faux. Et ce découpage est aussi, on peut pas sortir la connaissance scientifique de l'époque à laquelle elle est développée. Ce découpage suit énormément cette division entre les matières scientifiques et les matières littéraires, les sciences dures, les sciences molles, etc. Alors que il y a par exemple quelques siècles, je pense que vous le savez mieux que moi, la majorité des scientifiques étaient aussi artistes, on les appelait les polymathes. Et c'était un peu l'état par défaut. De Vinci, il pouvait faire de la botanie, puis aller peindre une toile, puis écrire un poème, puis aller faire un peu d'anatomie, faire l'homme de Vitruve et revenir. Et c'était vraiment le fonctionnement par défaut. Il n'y avait pas ce découpage. Donc, quelque part, moi aussi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que l'époque influence les connaissances qu'on est en train de produire et les modèles et les représentations.
Et la façon dont on les transmet.
Exactement.
Et les Mais justement, vous parlez d'époque. Moi, je me demande d'où vient l'idée qu'a eu ce médecin, ce chercheur, je sais pas comment il faut dire, qui, devant des malades atteints d'épilepsie, se dit, tiens, je vais retirer le corps calleux.
Ah, on sait, ça vient d'études sur les chimpanzés, qui étaient épileptiques, et ils essayaient. Ils essayaient de...
Mais sur des chimpanzés vivants, donc.
Sur des chimpanzés vivants. Les personnes qui subissent une callosotomie, si vous les rencontrez, ils fonctionnent complètement normalement. C'est la redondance, en fait. C'est là où...
Mais alors, ma question, je la transpose d'un cran. Ouais. D'où est venue l'idée de le faire sur les chimpanzés ?
On essayait, mais en fait, l'épilepsie, c'est une sorte de désorganisation de l'activité électrique et chimique dans le cerveau. Et ils ont essayé. Bricolage.
Bricolage. Vous dites aussi, Albert Moncabert, que il est difficile de voir ce qui se passe dans le cerveau, même quand on a des outils très sophistiqués comme l'IRM. Il y a plusieurs sortes d'IRM, on y reviendra, mais qu'on voit une activité, mais cette activité est pas du tout résolu spatialement et temporellement d'une façon suffisante pour qu'on puisse dire ce qui se passe vraiment.
Ah, pas du tout. On a plein de niveaux de dégradation du signal. Donc si on veut une bonne résolution temporelle, on va utiliser plutôt des EEG, des électroencéphalogrammes. Mmh. Mais les EEG, leur problème, c'est que c'est juste le signal cortical, parce qu'on ne va pas dans les structures cérébrales profondes. On a un bon décompte temporal, mais on ne sait pas trop où ni comment. Et si on utilise les IRM fonctionnels, qui sont les IRM les plus utilisés en recherche, on pense une relativement bonne résolution spatiale, mais on n'a pas un bon décompte temporal, parce que quand on fait par exemple des IRM, peut-être que ce serait important de l'expliquer, on n'est pas en train de mesurer l'activité cérébrale. On est en train d'étudier un signal qui s'appelle le signal BOLD, qui est l'oxygénation. Et on est en train de faire un supposé qu'une zone qui nécessite plus d'activation va demander plus d'oxygène. Donc on mesure l'activité BOLD. Mais un autre mythe sur le cerveau, c'est qu'on utilise 10% de notre cerveau alors qu'on utilise tout notre cerveau. Donc si moi je mets une personne dans une IRM, je lui demande de faire une tâche et j'enregistre les activations, en fait tout le cerveau est actif. Donc je ne peux pas discriminer qu'est-ce qui est en train d'utiliser de l'oxygène en plus. Donc ce qu'on fait, encore une nouvelle couche de dégradation, c'est qu'on fait des opérations qu'on appelle de soustraction cognitive. Par exemple, imaginez que je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau quand vous levez la main. Je vous mets dans une IRM, je vais prendre une sorte de photo de vos activations cérébrales, je vais vous demander de lever la main, je vais prendre une autre photo et je vais soustraire l'image 2 de l'image 1 de l'image 2, voir qu'est-ce qui reste. Et me dire que ce qui reste, la seule chose qui a changé, c'est que vous avez levé la main. Mais si ça se trouve, vous avez aussi pensé à ce que vous voulez dîner et vous avez eu des gaz qui sont passés dans votre intestin. Pour résoudre ça, on ramène beaucoup de candidats, on leur demande de faire la même chose. Mais même ça, on n'y est pas encore, parce qu'il y a plein de bruit. Et donc, le résultat final, ce que voit le grand public quand vous voyez des IRM, vous voyez un cerveau gris, avec souvent des couleurs qui passent du rouge très foncé à du jaune assez clair. Et intuitivement, on se dit, c'est l'intensité de l'activation cérébrale.
C'est là que ça se passe.
Exactement, c'est une sorte de puissance d'activation. Alors que c'est pas vrai du tout. En fait, ces couleurs représentent un calcul probabilistique de combien est-ce qu'on pense que c'est probable que cette R soit impliquée dans la tâche qu'on est en train d'étudier. Donc quand c'est rouge très foncé, c'est une forte probabilité que cette zone soit impliquée. Et si c'est blanc ou jaune clair, c'est moins de pourcentage. Et les zones qui ne sont pas activées, entre guillemets, on pense qu'elles le sont pas. Mais donc c'est vraiment des calculs probabilistiques à partir d'une mesure indirecte, et tout ça en sachant que notre résolution de nos machines ne sont pas très bonnes. Tout le monde connaît les pixels des téléphones, en IRM c'est un voxel, donc notre plus fine résolution c'est des milliards de neurones. Donc on est vraiment très loin encore de pouvoir dire qu'on est en train de mesurer, et à tout ça on rajoute un problème qui est plus conceptuel mais aussi technique, c'est que le cerveau est ce qu'on appelle un organe dépendant du contexte, il change selon le contexte. On était ensemble au café avant d'enregistrer cette émission, on parlait différemment, nos cerveaux étaient en train de fonctionner, on va dire, différemment. Et toutes les études aujourd'hui qu'on a en IRM fonctionnel, c'est des gens allongés dans une machine qui fait beaucoup de bruit en train de regarder un écran. Donc en plus, on n'a aucune mesure de ce qui se passe dans un cerveau dans sa vie quotidienne. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans un cerveau d'une personne qui est en train de regarder la télé chez elle, qui est en train de faire les choses les plus banales. Donc on est vraiment dans des sortes d'extrapolations. Et donc on va avoir une personne qui dort, qui est allongée dans une machine d'IRM en train de regarder un écran ou sur lequel on lui montre, je ne sais pas, deux personnes qui s'embrassent. Et ça passe au grand public en « voici votre cerveau quand vous êtes amoureux ».
Moi, j'ai lu un article sur ce qui se passe dans le cerveau quand on a un chagrin d'amour.
Oui, voilà.
Mais c'est peut-être l'inverse, alors.
Ouais,
c'est ce qui est activé quand on tombe amoureux et désactivé
quand on est dans un chagrin. Mais vous voyez, par exemple, si vous allez chercher l'article de recherche sur qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau quand vous avez un chagrin d'amour, vous allez trouver des gens allongés dans des IRM en train, par exemple, je sais pas, de regarder un film triste sur l'amour.
Ou alors on leur apprend qu'ils viennent d'être quittés par la personne qu'ils aiment.
Alors qu'ils sont dans une IRM allongée, qu'ils n'ont pas le droit de bouger et que ça fait bah, bah, bah autour d'eux.
Mais Albert Moncavère, est-ce que vous pensez qu'un jour on pourra observer l'activité individuelle des neurones ? Ou est-ce que c'est un projet fou ?
En tout cas, aujourd'hui, pour être humble, je dirais que de mon vivant, je ne pense pas. Est-ce qu'à terme, on peut jamais savoir de quoi le futur sera fait? Est-ce qu'on va faire une sorte de saut technologique ou même épistémologique de dingue? Pourquoi pas? Mais pour le moment, aujourd'hui, une IRM portable, ça va être un peu compliqué. On commence à avoir les premiers casques de EEG portables. Potentiellement, il y a quelques équipes, j'ai vu récemment, qui essayent d'avoir une sorte d'IRM portable avec un peu moins de résolution. Mais pour le moment, un cerveau dans son milieu écologique, comme on dit, avec une bonne résolution, c'est pas pour tout de suite.
Est-ce que on peut faire des... Enfin, j'ai l'impression que vous avez répondu à ma question là. Est-ce qu'on peut imaginer faire des, ce qu'on appelle des tests de personnalité qui soient fiables, compte tenu de l'importance du contexte. Vous venez de l'expliquer, ça me paraît impossible. C'est... Et pourtant, on en fait partout, dans les entreprises, à l'école, et ça sert même à décider de l'orientation ou du poste que va occuper un agent dans une entreprise ou un élève pour son orientation scolaire.
Et c'est assez dramatique. C'est assez dramatique parce que, justement, on part d'un présupposé, de prémices fallacieuses qui disent que la personnalité prédit la performance. Mais c'est pas vrai. En psychologie, on a des tests de personnalité qui sont très adéquats, mais on les utilise jamais pour prédire la performance d'une personne. Par exemple, je vais peut-être faire passer un test de personnalité, je sais pas, comme le Big Five, pour faire un diagnostic différentiel. J'ai une personne, je sais pas trop si elle est anxieuse sociale ou si elle a un trouble autistique, parce que elle est un peu réservée, elle a un dysfonctionnement au niveau de la cognition sociale. Un test de personnalité peut m'aider à faire ce diagnostic différentiel, mais se dire que je vais faire un test de personnalité pour savoir comment Jean-Luc ou comment Joël va fonctionner dans une entreprise, c'est vraiment un milieu de notre complexité. Et souvent, ces tests, en plus du problème conceptuel, ont de très mauvaises qualités psychométriques. En gros, souvent, c'est en fait des horoscopes pour des gens qui se disent trop intelligentes pour croire aux horoscopes. Mais ces tests fonctionnent sur un effet de psychologie qui s'appelle l'effet Forer et qui a été répliqué des tonnes de fois. En gros, si on prend 50 personnes, ici on leur fait remplir ces tests de personnalité utilisés en entreprise, on distribue les résultats aléatoirement, les gens se reconnaissent dedans comme si on leur a distribué leurs vrais résultats. Ces tests sont écrits d'une manière à ce que tout le monde se reconnaisse dedans. Et il y a toute une batterie de règles pour que ces tests fonctionnent. Il faut que vous croyez que le résultat est personnalisé pour vous. Il faut que vous croyez que la personne qui vous le fait passer est un expert ou une experte dans le sujet. Et surtout, le point le plus important, et ça en dit, je pense, beaucoup de choses sur notre espèce, il faut qu'il y ait 70% de choses positives. Donc si vous prenez le plus gros des salauds, un sociopathe, terroriste qui a tué des tonnes de personnes, vous lui faites passer un MBTI, son résultat va être, vous avez des capacités inespérées que vous ne puisez pas encore, dans votre vie vous avez déjà eu au moins une fois un problème sexuel, vous avez l'air d'être confiant de l'extérieur, mais de l'intérieur vous avez souvent des craintes, vous avez parfois eu des problèmes de sommeil, et ça va jamais lui dire « t'es un connard ».
C'est trop conciliant.
C'est 70% de positif, même pas neutre.
Alors, est-ce que c'est une des raisons qui explique, c'est un des sujets de votre livre, Albert Moukébert, comment et pourquoi le développement personnel, comme on l'appelle, a mis en sauce les résultats des neurosciences?
Je pense qu'il y a deux raisons pour ça. La première est vraiment très banale, c'est une raison mercantile. Il y a beaucoup d'argent à se faire dans ce milieu. Par exemple, là, les tests de personnalité sont souvent présentés comme des neurosciences. Ça n'a rien à voir avec les neurosciences. C'est vraiment de la psychologie, souvent soit cognitive, soit sociale, souvent des années 60, sur lesquelles on met juste l'étiquette neurosciences. Donc la première chose, c'est qu'il y a de l'argent à faire. Si je peux persuader quelqu'un que je peux lui apprendre qui elle est vraiment, en sachant que ça n'existe pas vraiment, mais d'aller à une sorte de quête de trouver qui elle est vraiment, quelles sont ses compétences réelles.
Comment elle peut les améliorer, surtout.
Comment est-ce qu'elle peut les améliorer, et quelle est la carrière où elle va être brillante et devenir millionnaire, avec le fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont paumés, qui vont mal, etc. Ça nous arrange et il y a plein d'argent à faire dedans. Et la deuxième raison est plus idéologique, c'est que ces outils permettent de mettre toute la responsabilité sur l'individu et de déresponsabiliser quelque part le système. Si moi je dis que la performance est conditionnée par la personnalité, j'ai plus besoin de prendre en compte les conditions de travail, les salaires, le rapport hiérarchique, la sûreté psychologique. Tout ça passe à la trappe derrière une sorte de réductionnisme total, soit à l'individu, soit dans des cas plus extrêmes, au cerveau de l'individu. Donc je permets même de sauter l'individu et de le réduire encore plus à son cerveau. Et je pense que d'un point de vue idéologique, ça arrange beaucoup de problématiques sociétales. C'est-à-dire, on n'a pas à prendre en compte la complexité du monde, c'est la faute à l'individu, voire à son cerveau.
Et pourtant, il y a des affaires récentes qui montrent que, par exemple, une certaine façon d'organiser le travail produit du burn-out.
Oui.
Non pas parce que les gens sont fragiles ou prédisposés, mais c'est parce que le système, la structure, fabrique cela.
Oui, mais c'est beaucoup plus pratique de par un tour de sorte de passe-passe, de dire ce que vous venez d'infirmer, que c'est la personnalité qui est fragile. Et ça, c'est juste possible avec la santé mentale. Parce que la santé mentale n'est pas quelque chose qu'on peut voir de la même manière que la santé physique. C'est un peu l'analogie que je peux donner. C'est un peu comme si tous les matins, quelqu'un rentre au bureau et vous pète le genou avec une batte de baseball. Et après, votre boîte vous travaille avec vous sur comment faire en sorte que votre genou soit moins faible et de le renforcer. Donc on met des conditions de travail qui vont écraser complètement les gens, et après on leur dit, on vous fait une formation de résilience, on vous met en place un atelier de yoga pour que vous soyez moins stressé, alors que n'importe quelle personne... Et donc, ça a un effet pervers double. D'un côté, l'entreprise peut ne pas prendre en compte et se remettre en cause dans son organisation, mais de l'autre côté, le salarié ou la salariée pense vraiment qu'elle est faible.
Elle se culpabilise.
Elle se culpabilise en disant, ben, quelqu'un d'autre que moi n'aurait pas fait un burn-out. Alors que sur 1000 personnes, je prends une batte de baseball et je leur explose le genou, les 1000 personnes ont leur genou explosé. Et probablement, sur 1000 personnes, je les mets dans des conditions de travail précaires, maltraitants, etc. Peut-être pas les 1000, mais on va dire, je sais pas, 800, 900 feraient un burn-out. Mais la personne, elle ne sait pas. Et donc elle va se dire, je suis faible, donc il faut que je parte faire une thérapie, il faut que je parte me soigner, etc. Alors qu'elle n'a aucun problème. Et ce tour de passe-passe, on l'a eu plein de fois au cours de l'histoire. Par exemple, l'homosexualité dans les années 70, on disait aux homosexuels, vous avez une maladie en vous. Et donc, on va vous soigner à travers des thérapies de conversion, ce genre de choses qui ont juste poussé les gens à se suicider. Parce qu'on peut... En fait, on a, notamment dans la santé mentale, on est très influencé par un modèle qu'on utilise en médecine qui s'appelle le modèle biomédical. Si quelqu'un est malade, c'est qu'il a un pathogène, que ce soit un virus, une bactérie, etc. Et ben ça marche pas vraiment pour la santé mentale. Les troubles de la santé mentale sont différents de tous les autres troubles.
Ils sont liés à l'environnement. Ouais.
Parce qu'ils peuvent être liés au cerveau, mais ils peuvent être liés à l'environnement. On appelle ça la cognition incarnée. C'est que le comportement des humains ne dépend pas juste de leur opération mentale. Il dépend d'une interaction permanente entre... les opérations mentales, mon cerveau, l'état de mon cerveau, ou même de ma cognition, on va dire, mon état corporel et mon environnement. Et donc, un dysfonctionnement dans ce système peut paraître comme être porté par l'individu, mais en fait, sa cause est ailleurs. Un psychiatre qui utilise la cognition incarnée, qui s'appelle Thomas Fuchs, que je cite dans le livre, dit dans les troubles mentaux, on peut avoir le trouble en soi, mais aussi on peut être en train de baigner dans le trouble. C'est un peu comme si l'organisme n'a rien. Donc une personne homosexuelle, on l'enlève des années 70, on la met dans les années 2040, parce qu'on est encore, et je suis un peu optimiste, on va dire, son organisme est sain. C'est pas comme une personne qui a, je sais pas, une tuberculose, qui soit en 1950, en 1860 ou en 1700, il y a
les mêmes symptômes.
Il y a les mêmes symptômes, il y a la bactérie qu'on peut aller isoler. Et donc, ce réductionnisme dans la santé mentale fait que quand on voit quelqu'un qui va mal, on fait porter le pathogène à la personne. Alors qu'aujourd'hui, on sait que c'est pas assez. Une personne qui va mal parce qu'elle est dans une relation toxique, en fait, elle baigne dans la maladie. Elle n'a pas de maladie. Si elle quitte cette relation, elle va être complètement saine. Et d'ailleurs, en thérapie, c'est un peu ce qu'on fait. Soit on traite le traitement de l'information de la personne. Une personne a une anxiété sociale. Je vous regarde, vous me regardez, je me dis, il pense que ce que je dis est bête, alors que j'en sais rien. Et donc, il faut arranger ça.
Je vous rassure.
Merci. Ou bien, on change l'environnement. Une personne qui est dans une situation maltraitante, qui a une hygiène de vie qui est mauvaise, je ne vais pas aller lui dire, on va changer comment tu interprètes le monde pour que tu réalises, en fait, que c'est bien que tu te fasses battre dans ton couple. On va lui dire, non, il faut qu'on change la situation. Mais dans le monde, dans l'entreprise, mais aussi plus largement dans le monde politique, on préfère la solution, on va dire, plus facile, parce que ça rentre dans une sorte d'idéologie individualiste qui domine un peu le monde aujourd'hui, de dire, en fait, non, c'est toi qui le portes et donc on va te soigner. Donc, si tu es déprimé, tu as un déséquilibre chimique de ta sérotonine, il faut qu'on rééquilibre ta sérotonine, alors que la personne est déprimée parce que ses conditions de vie sont déprimantes et leur dépression est tout à fait adaptée à la situation dans laquelle elle se trouve.
Mais Albert Moukébert, est-ce qu'il existe des pathologies dites mentales dont on voit la trace dans la structure cérébrale?
Oui et non. C'est-à-dire, au déclenchement, non. Il y a certaines maladies, avec le temps, il peut y avoir des changements, par exemple, des volumes de certaines structures, par exemple, dans certaines formes de schizophrénie, dans certains troubles. Mais, par exemple, personne aujourd'hui ne fait du diagnostic par imagerie. Si vous avez un trouble mental, quasiment personne, à part les maladies évidemment neurodégénératives, mais ce n'est pas vraiment des maladies mentales, elles ont un impact sur notre mental, Alzheimer, Parkinson, etc. Vous ne pouvez pas aller voir un médecin, si vous pensez que vous êtes déprimé, il vous met dans une sorte d'IRM magique et dit « je vois dans votre cerveau votre dépression ». On est même pas proche de tout ça. D'ailleurs, c'est tout le dilemme du diagnostic en psychiatrie. C'est que c'est des critères qu'on a construits au fil du temps. Là, il y a un papier qui est sorti il y a 2 semaines, qui a pris tous les symptômes du DSM et qui a essayé de réorganiser complètement nos classifications de maladies mentales. Et ils ont découvert qu'il y a toute une autre manière d'agencer tout ça. Et après, plein de pathologies qu'on considère aujourd'hui pour acquises disparaissent. Parce qu'on a juste découpé différemment les symptômes, on a créé d'autres catégories.
Mais il y en a qui apparaissent.
Il y en a qui apparaissent,
absolument. La bigorexie, par exemple.
Ah, je connais pas, c'est quoi ?
La bigorexie, c'est... alors, big, c'est gros, orexie, ouais. C'est l'appétit, mais c'est l'appétit de mouvement.
Ah.
C'est les gens qui font trop de sport, qui sont, qui font de la musculation, ouais. l'ultra-trail, dont la vie psychique se focalise au détriment de la vie professionnelle, familiale, en surentraînement, en obsession de la performance.
Je connaissais l'orthorexie.
Mais la smallorexie n'existe pas.
Ah bah, j'en souffrirais si elle existait.
Le fait d'être sur son canapé à boire des bières et à manger des cacahuètes, c'est pas une pathologie. Mais la bigorexie, parce qu'il y a des médicaments, je crois, est une maladie mentale.
Je connaissais pas.
Et donc, non. Certains proches d'ici sont affectés, si on retient les critères qui la définissent.
Eh ben, il faudrait que vous faire passer un test de...
Non.
Je préfère ne pas savoir.
Non, je vous ai écouté, j'ai aucun test pour moi. Et c'est quoi une émotion, Albert Montebert? Est-ce qu'une émotion peut se définir en termes de neurosciences? Ou est-ce que c'est simplement les effets qu'elle produit ou qu'on ressent qui suffisent à la définir?
Eh bien justement, le fait que vous fassiez cette distinction montre qu'on a un gros problème avec le mot. Dans le livre, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que quand on dit émotion, on est en train de renvoyer à trois choses complètement distinctes. Il y a les bases biologiques, les activations cérébrales qui sont en train d'avoir lieu. Donc ça, c'est un mot.
Et ça se voit à l'IRM, une émotion, selon cette définition?
Oui et non, parce que encore une fois, l'IRM, c'est
mais
des
oui
personnes
et non,
qui
ça
sont
pas comme réponse.
Oui, parce qu'on est allongé dans une machine qui fait du bruit et on monte des
c'est
choses
dur
à l'écran.
D'avoir des émotions. Ouais.
Donc c'est dur d'avoir une émotion naturelle, on va dire, dans un milieu écologiste. Mais on essaye d'étudier les bases neurales de certains ressentis émotionnels, on va dire ça comme ça. Il y a le mot émotion de comment on en parle comme outil de communication. Aujourd'hui, je me sens vraiment triste. En fait, ça ne servait rien de quand moi je dis triste, si c'est la même chose que pour vous. Vous savez juste que c'est un état désagréable. Et puis, il y a l'émotion, le ressenti subjectif, phénoménologique, comme on dit, de l'émotion. Je suis triste. Mais ce n'est pas un appareillage direct entre les bases biologiques et ce que la personne ressent. C'est-à-dire là aussi, on ne peut pas prendre une IRM, enregistrer des cerveaux et puis demander à quelqu'un quel est l'état émotionnel de la personne dont tu vois l'IRM. Personne ne sait faire ça. Mais ça a des implications, parce que neuroscientifiquement, on peut très bien étudier la première définition du mot émotion, donc les réseaux neuronaux impliqués, leur lien avec les réseaux plutôt cognitifs, etc. Et surtout, on peut l'étudier aussi chez les animaux, parce que c'est des bases objectivées. Donc on peut ouvrir le crâne, faire etc., indépendamment de ce qu'on en pense et de l'éthique derrière. Le deuxième sujet, ça commence à se corser un peu plus, mais le troisième sujet, le ressenti phénoménologique, ouais. À part vous demander comment tu te sens, on ne sait pas mesurer la phénoménologie. C'est tout un problème. Il y a un chercheur qui s'appelle Hakuan Law, qui travaille sur la conscience, et il dit on a toute une science de la subjectivité à développer. Parce que la méthode scientifique, un des outils principaux de la méthode scientifique, c'est la mesure. Il faut pouvoir mesurer, il faut pouvoir objectiver. Et la phénoménologie, la subjectivité de vie, ça s'appelle la subjectivité de vie. Donc ça ne se mesure pas, sauf à demander à quelqu'un. Par exemple, sur la douleur, s'il y a des auditeurs ou des auditrices qui nous écoutent, qui ont eu des soucis avec la douleur, vous allez chez votre médecin, on n'a pas de dolorimètre. La meilleure façon de mesurer la douleur, c'est de dire à quelqu'un, sur une échelle d'un à 10, tu as mal combien? Et après de le croire, parce que je peux ne pas croire, me dire, Étienne Klein, il se plaint alors qu'il dit 8, mais en fait moi je sais que cette douleur je l'ai déjà eue et c'est 2, et donc il ne va pas vous soigner de la même manière.
Mais pour ou savoir quelle est l'échelle, il faut étaler au sommet, ou 10.
Voilà. Par exemple, quelqu'un, c'est une très bonne remarque, parce que par exemple, imaginez quelqu'un qui est migraineux, donc il est allé au 10, au 11, au 12, et un jour il a une douleur à la poitrine, il est en train de faire une crise cardiaque, la douleur de la poitrine d'une crise cardiaque est infiniment inférieure de ce qu'on dit, parce que moi j'en ai pas eu, d'une migraine, il va chez son médecin lui dit tu as mal combien, il va dire je sais pas, 3. Il dit son médecin, 3, c'est probablement, je sais pas, ta plèvre qui est inflammée, ou tu as eu un coup de vent, ou c'est musculaire. Personne rentre chez elle, crise cardiaque, elle meurt. Et donc, c'est là où il y a toute cette science de la subjectivité.
La médecine du travail nous demande d'auto-évaluer notre niveau de stress entre 1 et 8.
Ouais, et après ne pas vous croire.
Mais j'ai jamais compris si c'était linéaire ou logarithmique.
Voilà.
C'est-à-dire, 8 c'est 7 plus 1 ou c'est 10 fois plus que 7?
Exactement. Et aussi.
Et quand j'ai posé la question, on m'a dit peu importe.
Peu importe, parce que c'est chacun qui le met. Alors normalement c'est linéaire, parce qu'aujourd'hui, si, au-delà du fait que c'est une question très pertinente, aujourd'hui on utilise ce qu'on appelle des échelles visuelles analogiques, c'est-à-dire c'est une ligne, il faut mettre X sur la ligne. Et on met des graduations qui sont linéaires.
Après coup.
Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais même ça, vous dites, je suis sur un stress de 3. On dit, mais lui, il se plaint, ou bien on catastrophise. Et ça, on le voit en médecine. Par exemple, une femme qui dit qu'elle a mal va être beaucoup moins crue qu'un homme qui a mal, parce qu'on se dit que un homme qui dit qu'il a mal, c'est qu'il a vraiment, vraiment mal, sinon il n'aurait rien dit.
Sérieux.
Et donc, par exemple, un homme qui a une crise cardiaque, justement, va être pris en charge beaucoup plus vite qu'une femme. Une femme qui a mal, on va lui prescrire souvent des médicaments qui ont été développés pour les femmes et qui ne font pas grand-chose, comme le Spasfon. Je suis sûr que, de tous les auditeurs, il n'y a aucun mec qui, un médecin, a prescrit du Spasfon. Le Spasfon a été créé pour que les femmes se plaignent moins, alors qu'il ne fait pas grand-chose. De ce que j'ai compris, il y a un livre qui s'appelle Pilule Rose qui est sorti, que j'ai utilisé aussi et que je cite dans le livre, sur ce médicament qui a été développé juste pour que les femmes ne se plaignent plus de leur douleur de règles.
Albert Moukébert, si je vous dis que l'eau mouille, mais qu'une molécule d'eau ne mouille pas,
ouais.
Vous en déduisez quoi ?
Bah, je vous avoue que quand j'ai écrit cette...
C'est une phrase qui est dans votre livre.
Quand j'ai écrit cette partie, j'ai pensé à vous, parce que je me suis dit, c'est une anecdote que vous aimerez. Donc, il y a des chercheurs qui se sont dit, imaginez qu'on fait la taille d'un atome. On est en train de se promener dans le monde atomique et on tombe nez à nez avec une molécule de H2O. On tend la main et on la touche. Est-ce qu'elle nous mouille ?
La réponse est non.
Et la réponse est non. Il faut au moins 6 molécules d'eau pour que la propriété, on appelle ça des propriétés émergentes.
6. Vous êtes sûr ?
En tout cas, l'article, je peux vous donner la réponse.
6.
Il faut 6 molécules d'eau pour que la propriété émergente mouillage apparaisse.
Ah oui, le mouillage, mais pas la sensation de mouillage.
Ah non, la sensation non. Mais pour que la propriété émergente mouillait, pour que l'eau puisse mouiller, il faut au moins 6 molécules de H2O. Donc si on faisait la taille d'un atome et on trouve 6 molécules d'eau ensemble, on les touche, on serait mouillé. Évidemment, si on fait la taille d'un humain, on ne peut pas toucher de façon 6 molécules d'eau. Et cette notion de propriété émergente, j'utilise dans le livre pour montrer que l'approche réductionniste sur certains systèmes, comme les systèmes complexes auxquels on appartient, en sachant que complexe, c'est pas compliqué, hein, c'est deux choses qui sont différentes. Pour qu'un système complexe, dans certains systèmes complexes, il y a des choses qu'on ne peut pas étudier en étudiant la plus petite brique. Alors que, en science, là aussi, l'approche réductionniste qui a été très fertile et fructueuse dans des domaines comme la physique, d'étudier les plus petits bouts et après de voir comment fonctionne le système, ben ça marche pas. Si on veut étudier pourquoi l'eau mouille et donc on se dit on va s'intéresser à une seule molécule de H2O, ça ne marche pas. De la même manière, un autre exemple peut-être qui parle beaucoup plus de propriétés émergentes, c'est les embouteillages. On peut pas comprendre un embouteillage avec une voiture. Il faut mettre plusieurs voitures.
Bah d'ailleurs, ceux qui ont inventé la voiture n'ont pas imaginé des embouteillages.
Exactement. Et donc, petit à petit, pour les humains, c'est un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on est en train de réaliser qu'on ne peut pas comprendre le fonctionnement d'un humain en essayant d'étudier le neurone ou même le cerveau. On parle alors c'est dans la systémie et dans les systèmes complexes, on parle de bons niveaux explicatifs. C'est-à-dire pour un même phénomène, il peut y avoir une représentation à différents niveaux explicatifs, mais certains sont meilleurs pour expliquer ce qu'on voit. Par exemple, il y a un accident de voiture. On peut se dire qu'on veut l'étudier en étudiant les atomes de la carrosserie. Mais ce n'est pas le bon niveau explicatif si l'accident a eu lieu parce qu'il y avait du verglas sur la chaussée. C'est un peu la même chose. Si je veux étudier pourquoi une personne est déprimée, parfois le cerveau n'est juste pas, ou pire, le neurone...
C'est pas en regardant les neurones qu'on va trouver la réponse.
C'est pas le bon niveau explicatif. Malheureusement, on continue dans cette voie hyper-réductionniste de couper le cerveau de l'organisme et de son environnement en étudiant un peu comme si on était un cerveau dans un bocal qui a des inputs et des outputs. Et en se disant, on va comprendre le comportement humain juste en étudiant le cerveau.
Mais puisque je vous ai sous la main, Albert Moukébert, j'ai une question à 1000 euros. selon vous, la conscience, enfin ce qu'on appelle la conscience, c'est une propriété émergente de l'activité cérébrale, ou est-ce que la conscience bénéficie d'une sorte d'extraterritorialité par rapport à la physico-chimie du cerveau ?
Alors moi, personnellement, je pense que c'est une propriété émergente, mais... C'est une propriété émergente, pas juste du cerveau. Du cerveau,
et du corps.
Dans un corps, dans un environnement. C'est-à-dire, je pense, et ça a été fait avec des chats, je pense que si on coupe l'organisme de son environnement, peut-être que la conscience émergerait, mais elle aurait une forme complètement différente. On oublie qu'on est un organisme dont le but, c'est d'agir. Donc, comment est-ce que je vais comprendre quelque chose comme la conscience si j'enlève tout le but de la conscience, qui est d'agir ? Et donc, je pense que c'est une propriété émergente, qu'elle émerge de l'organisme, mais qu'elle prend toute sa dimension, cette richesse, cette profondeur qu'on ressent tous, cette phénoménologie, je réutilise ce mot, mais parce qu'on n'en a pas un autre, même si j'essaye d'éviter les mots un peu trop techniques, quand on met cette boucle de corps, cerveau, environnement ensemble. Mais je ne fais pas partie de ce qu'on appelle les idéalistes, ou les pans psychiques qui existent beaucoup en neurosciences. Ça, c'est aussi autre chose, c'est que la majorité des gens pensent que tous les scientifiques sont physicalistes. Mais en sciences cognitives, pas du tout. Il y a plein de gens qui étudient la conscience, qui considèrent que, par exemple, la conscience est potentiellement une force fondamentale de l'univers, juste qu'on n'y arrive pas encore, on n'arrive pas encore à la cerner, et que c'est de la conscience qu'émerge la matière et pas le contraire. Et c'est des discussions assez intéressantes. J'adhère pas du tout à cette vision, mais c'est une vision qui m'intrigue. Je lis beaucoup les auteurs idéalistes. S'il y a des auditeurs qui ou des auditrices qui sont intéressés, vous pouvez aller regarder les travaux de Philippe Goff, qui sont vraiment des chercheurs sérieux, reconnus par leur père, etc., mais qui ont une autre, d'autres assises épistémologiques que le physicalisme, où tout le monde pense que tous les scientifiques sont automatiquement physicalistes.
Mais est-ce qu'on est capable de définir la conscience ?
Pour le moment, on galère. On galère parce
qu'elle suppose une conscience de soi, parce que ces questions se posent évidemment pour nous les humains, mais aussi pour les machines.
Oui.
On se pose la question de savoir si l'IA pourra accéder à la conscience ou pas, à une conscience. Est-ce que ça commence pas par une conscience de soi, déjà?
Oui, donc on sépare plusieurs types. Donc il y a la sentience, être sentient, il y a la conscience, et il y a la conscience de soi, on appelle ça la conscience autonoétique. C'est la conscience qui prend conscience d'elle-même. Et dans les sciences de la conscience, c'est un peu d'épistémologie, mais peut-être c'est intéressant de prendre le temps de l'expliquer, on est dans ce qu'on appelle une phase pré-paradigmatique. On n'a pas encore de paradigme. Donc on a plusieurs points de vue qui étudient le même sujet. Et pour répondre à cette question, ça dépend de l'idéologie du chercheur. Par exemple, un chercheur qui n'est pas fonctionnaliste, donc le fonctionnalisme, c'est un courant philosophique, on ne peut pas s'en sortir en sciences cognitives sans philo. Genre, c'est juste pas possible. Le fonctionnalisme, c'est quelque chose qui dit que, indépendamment du substrat qui sous-tend une activité, la conscience peut émerger. Donc une personne fonctionnaliste, a priori, accepte que ChatGPT, à terme, pourrait être conscient. Une intelligence artificielle pourrait être consciente. Mais un non-fonctionnaliste, a priori, pour lui, il faut un substrat biologique pour qu'il y ait conscience. Donc pour lui, la question de l'intelligence artificielle peut-elle être consciente, c'est un non-sens complet. C'est un peu comme si je vous demande, est-ce que pour vous, ma bouteille d'eau ici pourrait être consciente? Ça ne l'intéresse pas, il n'est pas fonctionnaliste. Et donc, dans les sciences de la conscience, l'idéologie du chercheur ou de la chercheuse conditionne énormément quel modèle théorique est-ce qu'elle va essayer de développer, quelle approche est-ce qu'elle va avoir. Et là, on voit l'intrication inséparable, quelque part, entre l'idéologie de la personne qui fait la recherche et ce qu'elle cherche, parce qu'on n'a pas encore de paradigme. Une fois qu'une science devient paradigmatique, on est tous là en train d'essayer de renforcer le modèle. Et tant qu'on n'a pas de modèle, c'est un peu la subjectivité.
On projette
et on espère qu'on va avoir raison.
Alors, j'ai lu récemment à Albert Mukleberg une remarque, alors je crois que c'est dans votre livre d'ailleurs, disant que le cerveau est le seul organe qui se soit baptisé lui-même.
Oui.
C'est chez vous, ça.
C'est chez moi, oui.
Voilà. Mais il s'est non seulement baptisé lui-même, mais il s'est accordé une forme d'autopromotion, puisqu'il déclare qu'il est le lieu de l'esprit.
Exactement.
De la pensée, de la vie.
Le cerveau, c'est ce qui a nommé tout dans l'univers et lui-même.
Et en fait, on sait de plus en plus que le cerveau, en fait, il est couplé au corps de multiples façons. Il est couplé à l'environnement, vous l'avez dit. Oui. Est-ce qu'on est capable de définir dans le corps la périphérie de la zone qui pense ? Est-ce qu'il faut tout mettre, le corps entier ? Ou est-ce qu'il y a une limite ? Est-ce que les doigts de pied participent peu, par exemple ?
Alors ça, c'est une question qui est encore en suspens. Ça dépend là aussi du cadre dans lequel on se retrouve. Donc si on est complètement cognitiviste, c'est vraiment le cerveau. Certains même vont plus loin et disent c'est vraiment le cortex préfrontal. Eux, leur moulin est en train de s'assécher. On est en train de trouver des opérations cognitives, par exemple dans le cervelet, dans des endroits où on n'a jamais regardé, on commence à regarder et on découvre des choses. Et à l'autre bout complètement, on a les gens qui pensent à ce qu'on appelle la cognition étendue. C'est que notre cognition, par exemple, une partie de notre cognition, ils disent, aujourd'hui, est en train d'avoir lieu pas juste dans notre petit orteil, mais par exemple sur notre téléphone. Que notre téléphone est une sorte d'extension de notre appareil cognitif. Dans le livre, je cite par exemple des chercheurs qui ont appliqué ça aux araignées. Ils ne comprenaient pas vraiment pourquoi les araignées se comportaient comme ça. Et ils ont découvert que s'ils considèrent que la toile d'araignée fait partie de l'appareil cognitif de l'araignée, son comportement devient beaucoup plus facile à expliquer. Moi, je dirais qu'il y a sûrement une boucle de rétrocontrôle, ça c'est mon opinion, donc c'est vraiment niveau zéro, on va dire, entre le cerveau et le corps sûrement, et je pense pas que c'est nécessaire qu'il y ait des opérations mentales qui sont en train d'avoir lieu dans l'orteil pour considérer que le corps fait partie de l'appareillage cognitif. Je m'explique, si on a une crampe, eh ben on fonctionne pas de la même manière. S'il y a le nerf sciatique qui est inflammé, on réfléchit pas de la même manière. Donc peut-être qu'il n'y a pas d'opérations qui sont en train d'avoir lieu dans le nerf sciatique, mais ça a une incidence directe sur le contenu de nos émotions, de nos cognitions, de nos intuitions. Donc moi, j'appartiens un peu au modèle théorique de la cognition incarnée, pas de la cognition étendue, mais c'est important d'expliquer qu'on peut aller vraiment là aussi d'un spectre de personnes qui pensent que c'est vraiment juste dans le cortex préfrontal, à des gens qui pensent que c'est juste le cerveau, des gens qui pensent que c'est le cerveau, le système nerveux central, le corps entier, et certaines personnes, la cognition est étendue à autrui aussi. Votre présence influence le contenu de mes pensées, et donc une partie de mon appareil cognitif est extérieure et est chez vous.
Eh bien, Moukébert, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on s'y retrouve au café, et on avait à la main le même livre,
oui.
Qui n'était pas le vôtre d'ailleurs.
Non.
C'est un livre qui s'appelle Maniac, oui. Qui vient de paraître et qui raconte sous forme romancée la vie de John von Neumann, oui. Un des pères de la physique quantique, de la cybernétique, de l'ordinateur, etc. Et on raconte dans ce livre une anecdote qui le concerne. Il s'étonnait lui-même, enfant, d'avoir appris à faire du vélo sans que cet apprentissage passe par une réflexion, un travail de la pensée. Ouais. Et il dit, c'est comme si mon corps s'était mis à penser tout seul, sans qu'il y ait un raisonnement, un calcul qui soit associé à cette opération. Est-ce qu'on peut en déduire que, d'une certaine façon, le corps apprend et pense à l'insu de son plein gré?
Oui, donc on appelle ça l'apprentissage implicite, mais les personnes qui sont par exemple cognitivistes l'intègrent très facilement dans leur modèle. Ils sont juste en train de dire cet apprentissage est en train d'avoir lieu hors de la conscience. Et ils considèrent que la cognition, pas toutes nos cognitions, sont conscientes. Donc, ils répondraient à von Neumann, ben non, en fait, tu as appris, c'est juste que c'est pas passé par ta conscience, et von Neumann est un peu spécial, on va dire ça comme
il
ça.
Était spécial, oui.
Il était un peu spécial.
Le pur esprit, comme on dit, mais oui, à tort, parce que c'est une expression trompeuse.
Oui, je suis d'accord, je suis complètement d'accord que c'est une très mauvaise expression, le
mais
pur esprit.
Mais il était fort.
Il était très fort. Et donc, on va dire à von Neumann, en fait, beaucoup de choses que tu as appris, tu les as appris sans les conscientiser. Et ça peut être vraiment fascinant, mais aussi c'est hyper intéressant cet exemple de vélo, parce que imagine que, et c'est une expérience de pensée qui a été faite en sciences cognitives, imagine que tu prends un cours pendant des années sur comment fonctionne le vélo. Donc on vous apprend les lois de l'inertie, la gravité, les forces centrifuges et centripètes, le frottement, les énergies potentielles, les énergies cinétiques, toutes les formules qui existent. Donc vous êtes l'expert numéro un au monde sur les bicyclettes, mais vous êtes jamais monté sur un vélo. Est-ce que quand vous montez sur le vélo, ça vous donne un avantage pour apprendre comment faire du vélo? Eh bien, beaucoup de gens pensent que non. Qu'il y a des choses qu'il faut les vivre phénoménologiquement pour pouvoir les comprendre. C'est une expérience de pensée très proche d'une autre que je cite dans le livre, qui s'appelle La Chambre de Marie.
Un apprentissage par corps.
Oui, un apprentissage corporel. D'ailleurs, il y a plein de mots qu'on utilise. En anglais, on parle de muscle memory, de la mémoire des muscles. Par exemple, pour les joueurs de tennis ou de basket qui sont capables de refaire, ou de bowling ou de fléchette. Les gens qui jouent aux fléchettes, qui peuvent envoyer la fléchette pile où ils veulent pour avoir pile le score qu'ils veulent. Est-ce que c'est leur cerveau? Est-ce que c'est leur corps? Et là, on voit très vite qu'on n'est pas juste le cerveau. Si on prend le cerveau de cette personne qui est championne de fléchette et on la met dans mon corps, eh ben, mes muscles, mon bras ne sait pas faire ces mouvements. Donc, je vais pas être aussi bon que lui.
On n'a jamais fait l'expérience.
Oui, nous, on n'a jamais fait l'expérience.
Comment vous savez ça?
Ben, on peut en déduire par des faisceaux indirects. C'est-à-dire, on sait que certains mouvements sont renforcés dans le corps. Et on peut tous le faire. Maintenant, vous prenez un stylo et vous écrivez avec votre écriture. Et après, vous essayez d'avoir une autre écriture. J'essaye d'avoir la vôtre. Ça va être très, très compliqué.
Vous parlez du moi dans votre livre.
Ouais.
C'est un chapitre, mais il y a même plusieurs qui sont passionnants. Vous rappelez l'anecdote du bateau de Thésée, dont les planches étaient renouvelées, de sorte que les sophistes d'Athènes se demandaient si c'était toujours le même bateau ou pas. Donc ça, c'est pour l'unité qu'on pourrait qualifier de spatiale. Mais il y a aussi la question du moi temporel. Or, on a reçu, il y a quelque temps, Lionel Nakache à ce micro, qui nous expliquait que la conscience du moi n'est pas continue. En fait, on se passe une sorte de... Il y a une sorte de cinéma intérieur, en fait.
Absolument.
Avec des périodes de temps assez courtes, mais notre cerveau met de la continuité là où les réceptions ne sont pas continues.
Absolument. D'ailleurs, Lionel, qui a écrit un super livre qui s'appelle Éloge de la discrétion, où il parle de comment on est fait de moments déconnectés, et qu'il y a une sorte de narrateur dans notre cerveau qui nous crée une continuité illusoire. Dans le livre, je cite un autre chercheur qui s'appelle Stan Klein, qui parle, lui, de paradoxe. Il dit, c'est le paradoxe de la continuité sans preuve du moi. C'est-à-dire, si je vous demande où est-ce que vous étiez le 4 juillet 1994, vous en savez rien, mais vous acceptez que vous étiez vivant, alors que vous n'avez aucune preuve. Et donc, Stan Klein, il est intéressé par ce paradoxe. Pourquoi est-ce qu'on accepte qu'on a existé de notre naissance jusqu'à aujourd'hui, Alors qu'on n'a aucune preuve. Si ça se trouve, il y a des mois qui ont complètement, où on n'était pas là.
Il y avait des témoins quand même.
Il y a des témoins. Et aujourd'hui, bah, il y a des chercheurs qui étudient aussi comment c'est en train de changer avec le smartphone. Aujourd'hui, les parents prennent des photos de leurs enfants tous les jours. Et avec l'organisation qui est Google Photos, qui est Apple Photos, etc., un enfant qui aura, je sais pas, 30 ans dans 20 ans, il peut aller chercher où il était ce jour-là. Et donc, comment est-ce que ça va impliquer notre self? Mais au-delà de la preuve.
Notre self, vous dites?
Ouais,
est-ce que c'est la traduction de moi ou c'est une variante?
Non, il y a self parce que moi, c'est aussi connoté au moi freudien, à d'autres moi. Donc, on dit self. Il y a plein de mots comme ça en neurosciences où on les dit en anglais parce qu'on a du mal avec le français. Par exemple, mind. En français, on dit mind, esprit.
Mais c'est pas ça.
Mais c'est pas ça, parce que esprit, c'est spirit. Et du coup, c'est un peu compliqué. Il y a plein de mots comme ça où on n'a pas vraiment d'équivalent. Donc, parfois, ça sort en anglais de ma bouche. Et donc, je dis souvent self parce que moi, j'ai l'impression que moi, c'est moi. Mais le self, c'est pas juste le moi. C'est quelque chose qui est un peu autre.
C'est la façon d'être aussi, non?
C'est la façon d'être. Et surtout, on a plusieurs selfs. On a ce qu'on appelle des selfs sociaux. Donc le self qui est rentré dans le studio et le self quand on va sortir, c'est deux personnalités un peu différentes. Là, on parle avec un peu la voix de podcast, etc. La temporalité des échanges est un peu différente. Et donc il y a toute une discipline aussi qui étudie comment on switch de self sans le réaliser. Mais... on a plusieurs selfs et on est en train de switcher comme ça très vite. Et il y a tout un champ qui étudie le self-switching, ça s'appelle. Comment est-ce qu'on passe d'un mode à l'autre? Et comment est-ce que, ce dont parlait Lionel, qui d'ailleurs dans son livre aussi, Le cinéma intérieur est incroyable, comment est-ce que c'est mis en récit pour créer cette homogénéité de qui je suis, alors que...
C'est-à-dire que le moi est une illusion, mais si je vois une photo de moi enfant, à une époque où il n'y avait pas de smartphone, mais on en trouve quand même des photos, je dis c'est moi. Je devrais dire c'était moi déjà.
Oui, exactement.
Et alors d'où vient cette idée qu'il y a un lien de continuité presque ontologique entre cette photo, enfin celui qui est sur la photo et moi-même, alors que toutes mes cellules ont été remplacées, que j'ai plus rien de commun avec lui en fait.
On pense vraiment que c'est un récit qu'on se raconte pour maintenir plein de fonctions. Un, pour un peu maintenir une sorte de stabilité dans la collaboration, stabilité dans les liens sociaux. Si j'accepte que vous n'êtes pas vous il y a un mois, on se voit, je ne sais pas, deux ans plus tard, il faut qu'on se représente. Il faut que je redise, bon, bonjour, je m'appelle Albert Moukébert, bonjour, je m'appelle Étienne Klein, alors que je sais qu'on se connaît. Et donc, il y a plein de... On pense que, là aussi, anthropomorphiser des choses, c'est un peu difficile, mais on pense qu'on n'a juste pas les ressources cognitives nécessaires pour avoir en tête une sorte de continuité du self, et que donc, la meilleure autre chose, c'est de se raconter des films dessus, pour le cacher, pour pas qu'on soit tous les matins dans une sorte de crise existentielle paralysante à se demander qui suis-je tous les matins.
J'ai encore beaucoup de questions, Albert Moukébert, mais votre livre Neuromania, comment est-ce qu'il est reçu? Parce que c'est quand même un livre de vulgarisation qui critique les vulgates issues de la vulgarisation. Donc ça vous met un peu en porte-à-faux avec toutes sortes de communautés, j'imagine.
Oui, mais pour le moment, en tout cas la communauté qui pour moi est la mienne, la communauté des chercheurs et des chercheuses en neurosciences, les retours que j'ai eus sont assez positifs parce que c'est quelque chose contre lequel aussi nous on lutte. Parce qu'encore une fois, ces croyances sont performatives, elles ont un impact sur comment on fonctionne. Et donc, pour le moment ça va. Après, est-ce qu'il y a, je sais pas, dans le monde du développement personnel, oui je suis un peu moins bien reçu. Dans le monde de la médecine, il y a toute une partie sur la médecine où je suis un peu moins bien reçu. Et surtout la dernière partie sur la politique, le réchauffement climatique, les fake news, etc. Où on est aussi dans une perspective très réductionniste, là ça chauffe beaucoup plus.
Merci Albert Moukébert, merci d'être venu. Je recommande la lecture de votre livre Neuromania, le vrai du faux sur votre cerveau qui vient de sortir aux éditions Alary. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Grégory Wallon et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.